Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
Si parlo pas, sarà beaucoup prima. Caloté, on dit beaucoup aux enfants, tais-toi.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Amet un cos de mar a mar, rosigat per tant de maranos e de tartanos. Amet un pitre co una frat, secla secle, tant de desfaccios, tu que mas faccio. Occitanie.
Alors nous sommes avec Marie Rouanet, qui a quitté son Languedoc pour venir nous parler des tréteaux de la table et ceux du théâtre.
Oui, moi j'ai été frappée en faisant le livre que j'ai appelé « Petit traité romanesque de cuisine », que j'aurais dû appeler « Petit traité théâtral de cuisine », par la ressemblance incroyable qu'il y a entre le fait de faire manger, l'opération qui consiste à inviter quelqu'un avec un repas, et la représentation théâtrale. Parce que nous sommes dans, on est carrément dans les grandes unités classiques. Hein. Unité de temps, le temps est très important, ça ne va pas se jouer sur 3 mois ou sur quelque chose de ce genre. L'unité de temps, unité d'action, et des paysages, unité de lieu. Enfin, en tout cas pour moi, j'aime bien recevoir les gens dans la cuisine, donc c'est le même lieu. Et des personnages, de la lumière, le décor soigné souvent par celui qui invite, qui crée un décor dans le décor naturel où on est, ou dans une maison, il y a des décors, il y a peut-être un peu de musique qui sera la musique peut-être de quelqu'un qui chantonnera dans les banquets populaires, on l'a ça presque tout le temps. Et comme dans le théâtre, il y a des tables qui sont les tables avec le rituel de table du peuple, ou bien des tables avec le rituel de table de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui font...
Des bourgeois.
Une grosse bourgeoisie, par exemple. Hein. Alors, on va soigner le décor, ça va être... Il sera dans la vaisselle, il sera... Dans les fleurs, on amène énormément, surtout de fleurs, au milieu de la table. On amène des très beaux plats de présentation, des plats.
Des costumes aussi.
On s'habille.
On
s'habille, voilà. Ouais. Mais dans le repas populaire aussi, mais pas de la même façon. Alors vous avez des tables bourgeoises, où il y a des rituels, des rites de table, qui paraissent les seuls convenables pour la politesse, l'environnement. Alors, vous ne touchez jamais la nourriture. L'envie de toucher qu'on a tout le monde. Moi, combien de fois j'ai envie de renifler ce qu'on me sert, je m'en abstiens à table, hein, parce que c'est pas poli. Ou alors, on ne touche plus rien. Il va falloir peler une poire avec le couteau et la fourchette. Si on vous sert une langouste, la pauvre, vous allez laisser plein de choses que vous auriez sucées, mais là, vous n'osez pas sucer. Voilà. Donc, vous êtes avec des outils qui s'interposent entre vos mains et ce que vous mangez.
Ça, c'est très récent. C'est très récent, ça.
Oui et non, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, ils avaient d'autres rites de table. Par exemple, ils mangeaient sur du pain, sur des tranches de pain qui leur servaient de tailloir, ce n'était pas des planches en bois. Ils coupaient la viande là-dessus et ils s'essuyaient aux nappes parce que, évidemment, quand. On a de la domesticité
pour nettoyer. Ils se mouchaient dedans. Oui.
Hein, ils se mouchaient, faisaient tout. Sur la nappe, c'était la serviette. C'était la serviette de table. Alors là, on a tout soigné. Mais la table populaire, elle aussi, est soignée. Elle est très soignée. Ça commence sur le blanc, sur souvent une jolie nappe, peut-être pas brodée aussi finement, mais on commence là-dessus. Et puis, les manières ne sont pas les mêmes manières. On ne va pas hésiter à se salir les doigts, à sucer un os, à faire du bruit en mangeant, pour manifester cette espèce de bonheur qu'il y a, pour une fois peut-être, à se nourrir en abondance. Chez moi, je vais vous dire, on mangeait le dessert on tournait l'assiette et on mangeait le dessert dans cette petite, le petit cul de l'assiette qui fait comme une coupelle. Et on mangeait le dessert là-dedans. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Ben pour ne pas avoir une assiette de plus à sortir. D'ailleurs, des assiettes à dessert, je ne sais pas si ma mère en avait beaucoup. Elle devait les garder vraiment pour les grandes occasions. Donc, on a une vaisselle de table plus réduite. On frotte son assiette. Pas trop, disent certains, parce que c'est pas mal d'avoir une petite chose qui fait le lien avec un petit reste du plat précédent. On sauce son assiette, on boit bruyamment, on parle plus fort, on n'a pas cette espèce de ton compassé, aussi compassé que les gestes. S'il y avait, mettons, de la langouste, on la laisse repartir totalement vide, on est allé dans tous les recoins. Et dans les deux cas, on a affaire à quelque chose de joyeux, de festif, l'un avec ses rites à lui et l'autre avec les siens. De même que dans le théâtre, on a du théâtre populaire qui fait rire des fois avec des plaisanteries que Molière n'a pas hésité à utiliser. Mais des fois, alors, on a du théâtre grave où il y a la mort, où il y a le sang, où il y a le drame, qui d'ailleurs, pour la bienséance, même de la table classique, la bienséance invite à faire mourir en coulisses.
Ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que l'un des points très importants de toute table, qu'elle soit bourgeoise, aristocratique ou paysanne,
c'est le plaisir de bouche.
Le plaisir de bouche, et dans le plaisir de bouche, il y a la conversation.
Il y a la conversation, bien sûr. Alors, on ne dit pas du tout les mêmes choses dans une table populaire, que même les discussions vont porter sur d'autres sujets. Moi, j'ai fait beaucoup de repas festifs à la ferme, avec vraiment, il manquait rien, il y avait le poisson, il y avait les hors d'œuvre, avec le jambon, la saucisse du pays, il y avait la bête à la broche, il y avait, après le poisson, vous aviez quelque chose qui avait cuit à la broche, un énorme plateau de fromage, une énorme tarte qui arrivait, tout ça, dans la même après-midi, ça durait quand même, c'est vrai, un long moment. Mais parce qu'on mangeait beaucoup. La table, à l'heure actuelle, plus bourgeoise, plus riche, a tendance à faire des assiettes très maigres, où il n'y a pratiquement rien à manger. Ça ne vous empêche pas de rester 4 ou 5 heures chez Michel Brass. Hein. Vous y rentrez à 2 heures, à 6 heures, vous n'êtes pas parti.
Michel Brass, le
célèbre Aveyronnais.
Le célèbre Aveyronnais de l'Aïeul.
De l'Aïeul. Voilà. Donc, on a chaque fois la façon de faire, la façon de montrer son bonheur, de montrer son plaisir de table. Soit en faisant la petite bouche, en se maintenant chez Michel Brass, en regardant où c'est qu'il y avait... Il met des plantes sauvages lui aussi, mais il n'en met pas beaucoup. Hein. Il se contente de deux tamiers, là, deux petites pointes de tamier dans le coin. Bon, moi, c'est pas la cuisine que j'aime. Hein. Donc,
mais le plaisir des yeux ne fait pas partie aussi de ce plaisir de table ?
Oui, mais alors on n'a pas le même goût pour les mêmes choses. Moi, je n'aime pas ces assiettes qui ont l'air de tableaux abstraits. Presque la nourriture, elle aussi, est abstraite. Je trouve que on n'est pas dans cette espèce de plat où se servir. J'aime pas l'assiette où on me sert. Voilà. Je trouve ça, d'abord, c'est souvent... Bon, maintenant, ils sont attentifs dans les grands restaurants à servir chaud. Mais moi, j'aime avoir un cassoulet qui arrive au milieu de la table dans son plat de terre, hein, où il a cuit, qui est beau et que j'ai pas besoin de verser dans un plat de table, si beau soit-il, pour avoir le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux, c'est aussi tout le plaisir que vous avez eu à voir arriver le panier du jardin, par exemple, ou votre marché. Tout ce plaisir des yeux, il existe dans la table. Hein. Mais le fait de se nourrir est autre chose. C'est une autre philosophie de l'approche de ce qui se mange.
Marie Rouanet, il y a un auteur que vous aimez, qui est Léo Larguier,
oui.
Quand on parle du décor de théâtre, qui dit que la table, après un repas, c'est comme une nature morte.
Voilà, c'est le théâtre, bon, on quitte le théâtre là, mais il dit surtout, ne débarrassez pas la table, gardez-la avec son aspect de nature morte, de choses qui sont finies, de serviettes qui sont peut-être à côté des plats, là, n'enlevez rien. Parce qu'elle signale que c'est la fin de la séance. Et là, on va parler, on va être
rideau
près du feu. Hein. Et il dit d'ailleurs très joliment, dès le matin, éclairez le feu, dit-il, dans la pièce où vous allez manger. Parce que si vous avez froid, c'est pas bon. Il faut manger là, tout près des choses, qu'elles viennent directement de la cuisine, qu'il y ait le moins de distance possible entre les deux. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup et je suis toujours très attentive à être présente. Et j'aime bien manger dans la cuisine parce que moi, cuisinière, je participe à tout le reste, à la conversation. Je reçois les compliments directs ou des fois pas toujours les compliments d'ailleurs.
J'ai l'impression quand même que c'est plutôt les compliments.
Oui, bon, je fais tout pour qu'ils soient contents. Ben, vous invitez pas les gens pour qu'ils trouvent que ça va pas, quand même.
Mais quand on va au théâtre, on ne sait pas très bien à côté de qui on est assis, alors que quand on est à table, généralement, on ne déjeune pas ou on ne dîne pas avec n'importe qui.
Ah, c'est vrai. Mais moi qui m'attache à nourriture, celle du corps, et par extension, mais seulement par extension, d'autres choses que le corps... C'est pas du tout pareil que une culture qui t'arrive par le moyen du théâtre vivant, de la musique, d'un film, de tous ceux qui demandent pas cette préhension du monde au besoin de la chair, les muscles et le ventre des gens et la tête. Voilà, et la tête en tant que cervelle à nourrir, hein, à nourrir pour de vrai avec de la nourriture. Et j'aime bien penser à ça. Parce que je pense qu'il y a là, dans cette conception, qu'il y a, attention, on fait disparaître un morceau du monde, là, il contient toute la nécessité de ménager la planète, la justice entre les uns qui ont tout et les autres qui n'ont rien, la nécessité absolue des économies diverses au niveau de la table, et le fait de rendre son assiette bien, bien léchée, bien nettoyée, alors que il y a des assiettes qui reviennent en cuisine, dans les cantines, c'est une catastrophe
de déchets
alimentaires. Que personne n'a le droit d'utiliser, je ne sais pas pour quelle raison.
Même pas les petits cochons.
Ben, une année, j'avais essayé, dans un endroit où j'allais souvent, au pied du Pic Saint-Loup, dans un village, d'inciter l'école à élever un cochon, et puis de le tuer en fête populaire, avec les enfants et tout ça. Et je sais pas s'ils sont arrivés au bout. Ils avaient commencé, mais alors, après, il y a les parents qui trouvent qu'il faut pas voir la mort. Enfin, vous savez qu'on protège les enfants d'une façon inconsidérée de la question de la mort. On leur fait plus voir les morts, on leur fait plus voir les... On leur cache la mort des proches... Ce qui est, à mon avis, une grosse, grosse erreur. Puisque, comme disait Mistral, la mort, c'est la vie. La mort, c'est la vie. Siesaki sur France Culture a une émission qui s'appelle « C'est par l'opas la boucle pleine » et qui se fait par Alain Kruger. Voilà une manière de table. On ne parle pas la bouche pleine.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Bon, je préfère avaler parce que je préfère... J'aime la parole, j'aime comprendre ce que me disent les gens. Donc, j'ai pas envie qu'ils parlent la bouche pleine. Puis c'est pas très joli, la langue et les dents qui mastiquent, j'avoue que esthétiquement, mon beau-frère qui est curé, il me dit, tu peux pas savoir comme je suis heureux qu'ils prennent la communion dans la main. Ces langues qui s'ouvraient sur des bouches, ce four qui s'ouvrait, il me disait, c'était horrible, la communion sur la langue. Le pauvre Jean...
Mistral, René Nelly, Marcel Delplastre. C'est ses grands poètes.
Ah, mais c'est des grands écrivains. Il manque le romancier Jean Boudou, qui malheureusement n'est pas tout à fait traduit, mais il y a quelques livres déjà traduits de lui, qui est un grand, grand romancier. Moi, quand j'ai la première fois où j'ai lu du Boudou, qui écrivait sur des cahiers d'écoliers, d'une écriture absolument d'instituteur qu'il était, avec qui vont se passer ces petits cahiers l'un à l'autre, là j'ai eu l'impression que je rencontre une impression aussi forte que quand j'avais lu Le bruit et la fureur, quand j'avais lu vraiment des romans qui m'avaient marqué.
Et quand...
Ou Giono.
Et Mistral, pour revenir à un poète, le seul prix Nobel occitan.
Oui, je peux vous dire un petit... Le début de Mireille en français.
Ah bah oui, très bien.
Je chante une jeune fille de Provence dans les amours de sa jeunesse. Au-delà de l'accro, vers la mer, dans les blés, humble écolier du grand Homère, moi je veux la suivre telle qu'elle était, rien qu'une fille de la terre. En dehors de l'accro, on en a peu parlé, et même si son front ne luisait que de jeunesse, et même si elle n'avait pas de manteau d'or ni de diadème, je veux la hausser jusqu'à la gloire et la porter avec la langue provençale. Car c'est pour vous que j'écris, Pâtre et Jean d'Aymas. Et après, ça commence dans ses 15 ans, était Mireille. C'est des jeunes amoureux. On est avec une histoire d'amour dramatique, comme dans Roméo et Juliette. Ils ont 15 ans, 16 ans. Ce sont de très jeunes amoureux.
Et vous connaissez Mistral en provençal?
Oui. Quand d'une quatre des provinces, dit les amours de sa jouvence, en delà de la crau et la mar din l'ibla, humble sculant la ourant ou meri, yeu la vole segui cumer, parce que no chatto de la terre, en fort de la crau, se ne sgaire par là. A mai son front ne l'usiguesse que de jeunesse, et mai naguesse ni diadème d'or ni manteau de damas, voli qu'en glori fuga usado, cum uno reino, e caressado, per nostro lengo mespresado, che canti che per vautre, o pastre e gendimas. Au soleu de la bagnaduros, quand i figo se fo maduro, ven l'homme a l'ubeti despuglia là au premplé. Mas y a toujours un branco, pes ausels de l'air, ou l'ausel de l'air se ben leva la fin. La vez y a quel o branquette, et sa frescume fa linguette. Voilà le début, et après, ça démarre. Ça démarre sur la jeunesse. Hein. D'ici 15 ans, Ero Mireille.
Marie-Rouanet, dans votre écriture, la fin a une place importante. Et vous vous dites, j'aime la fin, le plaisir de la fin.
Oui, c'est un plaisir. J'aime la fin parce que quand on sait qu'elle va être comblée, c'est une sensation merveilleuse. L'appétit monte lentement et va devenir de plus en plus fort. Et quand arrive l'heure, c'est un très beau souvenir d'enfance pour moi, d'arriver vers la maison et de ne pas savoir ce que ma mère avait préparé, et d'entrer en courant dans les odeurs de la cuisine et de m'enquérir de ce qu'il y avait à manger. Et ça, ce moment où on est rassasié, je crois que c'est un moment de félicité. Après, quand ça tarde, les choses sont peut-être un peu plus compliquées. C'est pareil en amour. Hein. Je crois que l'absence de l'aimer va se muer en désir Et ce désir a envie d'être accompli dans une présence. Ce vide dans votre estomac, il a envie qu'on le remplisse. Voilà. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça va déborder sur des tas de choses, sur cette sensation. Alors, je me suis souvent beaucoup interrogée sur cette satiété qui te donnait, comme à la fin d'un bon repas, d'un repas satisfaisant même, tout simplement, une sorte d'euphorie, de légère euphorie, que j'ai attribuée rétrospectivement au fait que le premier aliment que nous avons est unique. Ça, c'est extraordinaire qu'il est comme Dieu. Dieu est unique. Et puis, dès le sevrage, ça va se muer en multitude. Et donc, cet aliment premier est suffisant. Il vous donne tout, la protection, l'amour, les odeurs de la cuisine où j'ai sûrement été élevée. Et ce moment de félicité, il porte à l'indulgence, il porte à la caresse, il porte au geste fraternel ou au geste amoureux. Je veux dire, quels sont les amoureux qui n'ont pas mangé l'un en face de l'autre en faisant toucher leurs mains, pas en se donnant un spectacle peut-être devant dans un restaurant, mais qui ont échangé ou qui se sont embrassés, puis qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il y a, vous tapez facilement sur l'épaule de quelqu'un quand vous avez bien mangé.
Vous dites même que la table est l'antichambre du lit.
Oui, Léo Larguet le disait, ils disent que, bon, évidemment, avec un amoureux, cet amoureux qui vous a vu manger, et avec lequel il y a eu cette satisfaction de la faim qui se creux, elle n'y est plus, et c'est tout propice à la caresse, c'est tout propice à les bas amoureux, véritables, avec un partenaire. Et ça me paraît important, très important, avec tous les corollaires que ça suppose. Hein. Évidemment, c'est éphémère, hein. Ça va s'arrêter.
Tout s'arrête.
Y compris la vie, y compris le fait que l'euphorie, elle va partir. Hein. Mais je pense qu'on atteint, avec ce moment-là, où on est comblé, quelque chose qui peut être parfait en soi. Oh, ça ne va pas bien loin, puisque c'est éphémère. Mais la meilleure idée qu'on peut avoir d'une éternité de bonheur, c'est la fin d'un repas où vous tenez la main, où vous êtes prêt à partir dans la chambre avec l'être que vous aimez. Voilà, je pense que ça peut vous donner une idée de ce que vous pourrez être. Parce que l'éternité, ça fait peur. Hein. Hein, c'est long. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que l'éternité? Ça peut être l'absence de temps, mais ça fait peur, ça donne le vertige. Tandis que là, il vous semble que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être. Une intensité qui, au lieu de disparaître, une perfection du corps et du cœur.
À la fin.
À la fin, et puis qui va finir. Certes, va finir. Mais vous dites, si elle était sans fin, ça serait bien.
Marie Rouanet, quand à la fin d'une pièce de théâtre, quand les acteurs reviennent sur scène, quand le rideau se relève, il y a des rappels.
Oui.
À la fin d'un repas, est-ce qu'il y a des rappels?
Eh bien, le rappel, c'est de parler justement de ce que tu as mangé ou de t'avancer vers la chambre plus ou moins nuptiale qui t'attend, ou bien, avec les gens qui sont là, de se congratuler mutuellement sur ce qu'on a pu manger. C'est des rappels aussi. Et ça fait plaisir aux acteurs, comme à ceux qui ont très bien mangé.
Alors, une dernière chose, puisqu'on vient de dire que les meilleures choses avaient une fin, mais il y a, je crois, un légume que vous aimez particulièrement. Lequel ?
Alors, j'en ai quand même plusieurs, mais j'ai cité tout à l'heure l'arrivée de l'asperge et l'arrivée le fruit des fraises. Mais quand même, je vais quand même citer l'asperge. Et puis, j'ai un faible pour l'aubergine, qui est un légume qu'on peut manger n'importe comment, habillé ou pas, frit, en sauce blanche, en ratatouille. Moi, je fais des ratatouilles, alors coupe tous les petits morceaux, puis tout ça s'est mis au sel. Je les soigne, ces ratatouilles. Chaque légume est cuit à part. Et puis après, on mélange. L'aubergine, c'est quelque chose, pour moi, d'un légume un peu magique. Et ce qui est curieux, c'est que autant l'asperge que l'aubergine ont donné naissance à des plaisanteries de caractère sexuel.
Oui, grivoise. Alors comment s'appelle d'ailleurs l'aubergine en occitan?
Oh, ça s'appelle le vie de l'âne, le sexe d'âne, l'ouvier d'azé. Parce que la ressemblance est assez, même la couleur, avec un âne entier. Maintenant, on doit beaucoup les châtrer, parce que beaucoup de gens ont des ânes. Enfin, un âne entier, c'est spectaculaire. Alors, manier une aubergine, toute lisse dans sa main, moi, quand on est cuisinière, j'aime le lisse de l'aubergine, comme j'aime le lisse de la tomate, comme j'aime le surgeon, là, cette fleur qui est pas encore, cette plante qui n'est pas encore devenue épanouie, qui deviendra l'asparagus, et tout ça va se développer. Mais alors, quand c'est fermé, là aussi, il y a une connotation qu'on a toujours vue dans des images un peu osées, je dirais, hein, sur la connotation avec un sexe. Bon, ce n'est pas pour ça, je pense, que j'aime ces légumes. Puis, à mesure qu'ils arrivent, j'aime bien avoir arrivé les choux frisés. Le chou, on dirait que c'est vrai qu'on va y trouver un enfant dedans. Qu'il suffit de... C'est fermé comme... On dirait le chou, l'enfant quand il arrive au périnée, qui va sortir. Qui gonfle le périnée dans la rondeur de sa tête. C'est le chou. Je comprends qu'on ait dit les enfants naissent dans les choux.
Mais les enfants naissent dans les choux.
Oui, bien sûr. Pas les filles. Et les garçons, les cigognes quand même. Je ne sais plus qui c'est qui porte l'un ou l'autre.
Marie Rouanet, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de nous avoir apporté votre poésie, votre conversation et aussi vos exhausteurs de goût. Parce que vous nous avez mis terriblement en appétit.
Oh ma foi, un jour viendra peut-être où vous ferez un tour du côté des Rougiers et suivant la saison, vous aurez ce qui est de saison. Adicias plat.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Dominique Coupetissa, la prise de son est de Jean-Michel Bernot et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission jusqu'à la fin des temps, en tout cas un certain temps. Vous pouvez aussi la podcaster sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal.